Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, un garçon à tout prix. Dans nombre de pays encore, les familles préfèrent avoir un petit garçon plutôt qu'une petite fille. C'est le cas en Chine, en Azerbaïdjan, mais aussi en Europe, en Albanie ou au Monténégro. Quant à l'Arménie, c'est le troisième pays au monde où le taux d'avortement sélectif au détriment des filles est le plus haut. Malgré l'interdiction en 2016 de pratiquer des IVG en fonction du sexe, les familles arméniennes ont encore du mal à considérer l'arrivée d'une fille comme une bonne nouvelle. Reportage Constance Léon.
À 3 heures au nord-est de la capitale arménienne, la zone rurale de Gerarkounik est la région qui compte le plus d'avortements sélectifs de filles du pays. Une pratique répandue mais taboue. À 42 ans, Tamara Gevorkian habite à Chambarak, dans la région de Gerarkounik. Sa belle-famille voulait qu'elle avorte alors qu'elle attendait sa quatrième fille.
Beaucoup de gens nous disaient « Vous avez déjà 3 filles, à quoi va servir la quatrième ?» Mais quand nous avons su que nous allions avoir la quatrième fille, mon mari a dit que ça lui était égal que l'enfant soit une fille ou un garçon, et que nous aurions l'enfant et que nous le garderions.
À 3 mois de grossesse, l'avortement n'est plus permis par la loi arménienne. C'est à ce moment que le médecin annonce le sexe du fœtus. Certaines femmes décident d'avorter lorsque c'est une fille. Les femmes paient alors le médecin pour effectuer l'avortement au-delà des délais légaux ou se procurent une pilule abortive. Une décision influencée par les stéréotypes de genre qui ont la peau dure dans toute l'Arménie.
Les femmes qui choisissent d'avorter quand elles attendent des filles veulent prolonger la lignée familiale grâce aux garçons, notamment grâce au nom de famille. C'est comme un héritage. Mon mari et moi, nous sommes très heureux d'avoir 4 enfants, 4 filles. Nous les aimons chacune à notre manière. D'ailleurs, si j'avais une meilleure santé et l'opportunité, j'aurais plus d'enfants encore.
La tendance ne fait qu'augmenter depuis la fin de l'Union soviétique. En 2018, l'écart s'est réduit entre les naissances de filles et de garçons. Ces chiffres, difficiles à obtenir pour les autorités arméniennes, sont calculés par rapport au taux de naissance et au sexe de l'enfant. Plusieurs facteurs se retrouvent dans le choix de l'avortement sélectif selon un rapport publié en 2012 par le Fonds des Nations Unies pour la population. Un salaire bas, un habitat rural, éloigné des services de santé et du marché de l'emploi qu'offre la capitale, et surtout l'entourage des femmes qui ont également pratiqué l'avortement sélectif en secret.
Bonjour, bienvenue dans notre centre. Je m'appelle Kanarik Makarchan, je travaille au Women Resource Center en tant que coordinatrice des projets liés à l'édification de la paix. J'ai 27 ans. D'abord, je veux vous montrer la fresque qui est peinte sur le mur de l'entrée. On y voit plusieurs femmes qui tiennent des pancartes avec plusieurs slogans. Sur l'un d'entre eux, il est écrit « Hurrah, c'est une fille !» C'est un message positif sur le fait d'avoir une fille. Les gens pourraient se dire « Je suis heureuse d'avoir une fille ». C'est un plaidoyer pour lutter contre les avortements sélectifs.
Pour la militante de l'association arménienne Women Resource Center, basée dans le centre d'Erevan, l'État doit mettre en place des politiques publiques différentes.
Beaucoup de gens disent qu'il faut encadrer les avortements sélectifs avec des lois, mais on a vu dans d'autres pays que cela ne fonctionnait pas. Si nous voulons que la situation change, il faut éveiller les consciences, donner plus de pouvoir aux femmes. On doit créer des opportunités égales pour les hommes et les femmes, notamment dans le monde du travail, au niveau du salaire. Apprendre aux parents à élever leurs enfants, filles et garçons, de la même manière. En d'autres termes, on doit modifier la manière dont les gens voient les choses.
La plupart des défenseurs des droits des femmes arméniennes parlent désormais d'avortement en préférence des garçons. Un terme qui pointe directement du doigt les inégalités à l'origine des avortements sélectifs en Arménie.
De de l'avortement sélectif au droit à l'avortement. Et ce droit est-il aujourd'hui menacé en Europe? On peut se poser déjà la question pour la France, où des gynécologues expriment publiquement leur réticence à pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, et alors qu'il existe encore la clause de conscience qui permet aux médecins de refuser de pratiquer une IVG. Mais qu'en est-il dans le reste de l'Union européenne? Le Conseil de l'Europe s'est inquiété il y a 2 ans de restrictions rétrogrades, et c'est ce qu'on va voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, le droit à l'avortement est-il remis en cause en France?
Non Catherine, affirmer cela serait très excessif. Mais la France n'échappe pas à la montée générale des courants conservateurs et traditionnels qui font de la remise en cause de l'IVG un de leurs combats symboliques. Un certain émoi a ainsi été causé à l'automne dernier par les déclarations du président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens français, Bertrand de Rochambeau, qui avait affirmé « nous ne sommes pas là pour retirer des vies ». Il y a eu parallèlement quelques exemples de centres hospitaliers publics qui ne proposaient plus d'IVG alors que la loi leur fait obligation de le pratiquer. Quant aux médecins qui peuvent toujours mettre en avant leur clause de conscience pour refuser de pratiquer un IVG, ils ont l'obligation d'orienter les demandeuses vers un autre médecin. Au demeurant, on estime entre 3 et 5 000 le nombre de résidentes en France qui vont se faire avorter à l'étranger, chiffre assez dérisoire par rapport aux 216 000 IVG pratiqués annuellement dans l'Hexagone.
Quels pays interdisent encore l'avortement dans l'Union européenne?
Seuls Malte et l'Irlande du Nord imposent une interdiction absolue puisque la République d'Irlande a légalisé l'IVG l'an dernier. Les Nord-Irlandaises peuvent néanmoins faire interrompre leur grossesse en Grande-Bretagne. À Chypre, l'avortement était jusqu'à l'an dernier limité au risque de santé, mais il est désormais possible après consultation d'un médecin. En revanche, l'IVG n'est autorisé en Pologne qu'en cas de viol ou de malformation du fœtus.
Ailleurs, l'avortement est donc libre.
Dans plusieurs pays, il est possible, mais assorti de conditions restrictives. À commencer par l'Allemagne, où l'IVG est simplement dépénalisé. Outre-Rhin, les patientes doivent consulter obligatoirement un centre spécialisé agréé, qui est souvent dépendant d'une église, a priori hostile à l'IVG. En outre, jusqu'à janvier dernier, toute publicité était interdite, rendant malaisée l'information des femmes. Cette disposition vient d'être assouplie. Mais l'IVG n'est remboursé que partiellement par les Länder, et à condition que la femme justifie de bas revenus. Enfin, très peu de médecins pratiquent l'IVG outre-Rhin. C'est également le cas en Italie où 70% des gynécologues sont objecteurs de conscience. Il s'ensuit de longs délais d'attente pour les candidates à l'IVG dans la péninsule, ce qui explique un nombre très élevé d'avortements clandestins, peut-être 50 000 annuels estime-t-on. En outre, les Italiennes doivent justifier leur demande d'IVG. Même chose en Belgique, Pays-Bas ou Finlande, où l'on exige de justifier d'un état de détresse.
Quid de l'Espagne, Daniel?
Une tentative de restreindre considérablement le droit à l'IVG instauré seulement en 2010 a été repoussée en 2014. Mais depuis 2015, les mineurs espagnols doivent obtenir le consentement de leurs parents à l'IVG, ce qui constitue un recul. Recul également au Portugal, où depuis 4 ans, l'IVG n'est plus remboursé.
Finalement, les pays européens où l'IVG est totalement libre et gratuit sont rares.
Tout à fait. La plupart des pays de l'UE connaissent une IVG soumise à autorisation ou à des conditions particulières, tandis que l'intervention n'est pas remboursée ou seulement partiellement. La gratuité existe dans plusieurs pays, mais s'accompagne de restrictions, même au Danemark, où les mineurs doivent en principe obtenir une autorisation parentale. En Suède, il n'y a aucune autorisation requise, mais une petite participation de la patiente est exigée. Aux Pays-Bas, le délai minimal de réflexion, récemment supprimé en France, demeure. En fait, seule la France connaît un régime d'IVG totalement libre et gratuit.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Vous savez, en France, l'avortement fait souffrir beaucoup de monde. Bien sûr, les femmes, mais aussi les hommes, les familles et la société tout entière. Vous savez, en France, il y a 220 000 IVG par an pour 800 000 naissances. Ce qui fait que si vous êtes né après 75, on avait une chance sur 5 d'y passer. Mais plus grave, certains d'entre
eux... Et voilà, la communication très efficace qu'emploient certains groupes anti-avortement qui se cachent derrière ces messages séduisants. C'est le cas donc des survivants. Ces militants sont jeunes, très conservateurs, quand ils ne sont pas carrément d'extrême droite. Et ils ont tout compris aux nouvelles méthodes de communication. Peu importe la façon dont on parle d'eux, du moment que se crée un buzz, même si le message est brouillon, voire absurde, ces groupes encore très minoritaires font pression en France et en Belgique, avec notamment des marches pour la vie. Ce qui fait dire aux militantes féministes que le combat de Simone Veil dans les années 70 n'est pas tout à fait terminé. Perrine Jouan s'est d'abord rendue au planning familial et y a rencontré Isabelle Louis.
Le délai en France, il est de 14 semaines. C'est un délai très court. Il y a des femmes qui partent tous les jours avorter à l'étranger, qui doivent donc financer par leurs propres moyens leur avortement ou qui, malheureusement, ont recours à des avortements illégaux en France en mettant leur santé en danger. Comment font les femmes qui ont très peu pour vivre? Comment font les femmes qui n'ont pas de papier pour se déplacer dans l'Europe? Comment font les mineurs?
Mais même dans le cadre de délais légaux, l'accès technique à l'IVG se complique. Isabelle Louis déplore un manque d'offres dans certains départements. En effet, les centres IVG se font rares.
Il y a déjà peu de centres IVG. Il y en a pas mal confirmés en Ile-de-France ces derniers temps. Par exemple, prenons la Seine-et-Marne. Si on habite à côté de Fontainebleau, on ne peut pas choisir la méthode pour interrompre la grossesse. Ils ne proposent que la méthode médicamenteuse. Si on habite au milieu de la Seine-et-Marne, alors là, on va devoir faire des kilomètres pour pouvoir accéder au CIVG le plus proche.
De moins en moins de praticiens également et un choix de méthode restreint, ce que déplore Chantal Birman. Elle a été sage-femme, elle est toujours engagée. Elle est notamment la vice-présidente de l'Association nationale des sages-femmes orthogénistes.
Comme il y a de moins en moins de praticiens de l'aspiration, du coup, on fait de plus en plus d'IVG par mode médicamenteuse. En disant aux femmes, ça sera plus vite fait, vous avez intérêt à faire ça, voilà.
Normalement, les services de gynécologie obstétrique de chaque hôpital public sont dans l'obligation d'intégrer l'activité d'interruption volontaire de grossesse. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, Chantal.
Quand c'est organisé et que c'est fait contre la volonté du chef de service, c'est mal fait. Les femmes sont mal accueillies, les gens ils sont mal à l'intérieur, il n'y a pas de respect par rapport à ces actes-là.
Actuellement, médecins généralistes, gynécologues, planning familiaux et sages-femmes peuvent prescrire l'avortement médicamenteux. Mais un collectif de sages-femmes porté par l'ANSFO souhaite pouvoir pratiquer également l'IVG instrumental.
L'avortement peut être vécu par une femme comme une amputation de quelque chose. Là, non. Elle est du côté inscrite de la fertilité. Elle a eu des avortements, elle a eu des fausses couches, elle a eu des enfants. Voilà, c'est la vie des femmes.
En France, une femme sur trois est concernée par l'IVG et y aura recours au moins une fois dans sa vie.
Comme en Italie ou même en France, dans les hôpitaux de Croatie, de plus en plus de médecins et de sages-femmes invoquent cette fameuse clause de conscience pour refuser de pratiquer des avortements. Alors afin d'aider les femmes qui veulent avorter, des militants ont conçu et mis en ligne une carte interactive de l'accès à l'IVG. Simon Rico.
Il n'existe aucune règle claire sur la clause de conscience en Croatie et cela conduit ces derniers temps à des dérives de plus en plus médiatisées. À Dubrovnik, un gynécologue a récemment été contraint de pratiquer un avortement sans anesthésie parce que tous les anesthésistes avaient fait valoir cette fameuse clause. Cette affaire a été rendue publique par la présidente de l'Ordre des sages-femmes. Indignés, les hackers du groupe Code for Croatia ont décidé de réaliser une carte interactive de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en Croatie en se basant sur les données recueillies par deux journalistes. La carte donne des informations sur les 27 hôpitaux publics croates pratiquant l'IVG, le nombre de gynécologues obstétriciens dans chacun de ces établissements, le nombre qui se réclame de l'objection de conscience et les prix moyens des interventions. Il apparaît que c'est dans le nord-est de la Croatie qu'avorter est aujourd'hui le plus difficile, mais la situation a tendance à se compliquer aussi dans la capitale Zagreb. En Croatie, 58% des gynécologues font valoir leur clause de conscience et près de 15% des 1700 sages-femmes font de même. Tels sont les chiffres de l'Ordre des sages-femmes qui précise qu'une praticienne sur deux choisirait d'être objectrice de conscience si elle ne craignait pas que cela puisse nuire à sa carrière. Soutenus par la puissante et très réactionnaire Église catholique, les mouvements pro-life ont retrouvé de la vigueur ces dernières années en Croatie et ils mènent d'intenses campagnes pour restreindre, voire interdire, l'interruption volontaire de grossesse. Ils disposent en outre d'importants relais au sein de la majorité nationaliste conservatrice au pouvoir. Voilà qui marquerait un curieux retour en arrière, alors que la Yougoslavie, dont la Croatie faisait partie jusqu'en 1991, fut l'un des pays pionniers de l'IVG.
Dans le nord de l'Italie, à Milan exactement, une maison de retraite accueille une soixantaine de pensionnaires qui ont tous un point commun, ce sont d'anciens musiciens. Et quel meilleur endroit qu'un lieu imaginé par le célèbre compositeur Giuseppe Verdi pour passer ses vieux jours, Cécile Debarge. Des salles de musique, d'autres de concerts, des bureaux, un orgue, des harpes, des batteries, une quinzaine de pianos, le tout au cœur d'une superbe bâtisse néoclassique dessinée par l'architecte Camillo Boito au nord de Milan, la capitale lombarde. Voilà à quoi ressemble la Casa Verdi, la maison de retraite inventée par le compositeur italien Giuseppe Verdi et ouverte en 1902. L'idée est alors la suivante, accueillir les musiciens en difficulté, soit parce qu'ils sont sans le sou, soit parce qu'ils n'ont plus de famille. Aujourd'hui, ils sont une soixantaine à y couler une retraite paisible et créative. Chacun s'acquitte d'une contribution calculée en fonction de ses revenus et la différence est payée grâce aux nombreux investissements qu'a réalisé la maison de retraite. Car à sa mort, le compositeur a légué l'ensemble des droits d'auteur de sa musique à la Casa Verdi, ce qui permet toujours aujourd'hui de financer le projet qui bénéficie aussi de dons, parfois de plusieurs millions d'euros de musiciens du monde entier. Depuis 1999, plusieurs étudiants du célèbre opéra La Scala à Milan sont accueillis dans la maison de retraite pour pouvoir échanger avec leurs aînés. La superbe bâtisse accueille également un petit musée où sont exposés des objets ayant appartenu au maestro, y compris le piano sur lequel il a composé ses plus célèbres musiques.
May I have your attention, please?
Music, I like music.
You like music?
Music make you lose control.
Why don't you put a record on?
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous vous félicitez du nouvel album original d'une jeune Galloise expatriée aux États-Unis.
Elle a sorti aujourd'hui du cinquième album solo de Kate Le Bon. Un peu plus de 10 ans après ses débuts, devrait définitivement consacrer l'autrice-compositrice comme l'un des talents les plus singuliers de la scène pop moderne. Comme son nom d'artiste ne l'indique pas, Kate Le Bon est née au Pays de Galles et elle chante volontiers dans sa langue maternelle. C'était le cas notamment sur son premier maxi. Mais c'est en anglais qu'elle s'exprime sur ses derniers disques enregistrés aux États-Unis où elle vit depuis quelques années. Reward a ainsi vu le jour en Californie dans un studio à flanc de montagne surplombant l'océan. Mais Kate Le Bon en a écrit les chansons en Angleterre dans la sublime région de Lake District selon une routine bien particulière. Le jour, elle apprenait à fabriquer de ses mains des chaises et des tables en bois. Et la nuit, elle s'enfermait pour composer au piano une autre forme d'artisanat en somme pour des morceaux souvent un peu tordus.
On se quitte sur les notes de Café Le Bon. À la réalisation et à la mise en onde, il y avait tout cet été Ludivine Amado. La semaine prochaine, on reprend nos émissions.